Couture.
Oui. Oui, sûrement.
Dans le mythe.
Oh oui.
Avec Pierre Couture.
Tous les jours, je me tiens au courant.
Et Frank Fournier.
Radio X.
Ouais, des auditeurs qui se demandent si j'ai pris mes pilules ce matin. Oui, j'ai pris mes pilules.
Je t'ai vu. Je t'ai vu les prendre.
Non, non, mais c'est parce que moi, je me dis, tu sais, si on manque d'argent au niveau des infrastructures puis les taxes touristiques sont très élevées ailleurs. Là. Ici, au Québec, semble-t-il, on n'a pas suivi la tendance des taxes touristiques sur les, notamment les chambres d'hôtel. Ben, si on est capable de se payer un stade avec cet argent-là, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, c'est juste ma logique comptable parce que là, je me dis, l'argent, on va apprendre à quelque part, là. On va apprendre, si on donne, mettons, c'est un stade de 100 millions, puis on a un financement de 25 millions ou 20 millions.
Ah, c'est clair.
L'argent va venir de quelque part, de vos impôts. Là.
En général, de nos poches.
Bien, c'est ça. Fait que je me dis, une taxe sur les chambres d'hôtel et quoi, le trois quarts des touristes, c'est quoi? C'est des gens de l'extérieur.
Bien, il faut voir, mettons, peut-être région par région, c'est-tu applicable? T'sais, est-ce que ça fera en sorte qu'il y ait des régions où il y aurait moins, ils paieraient le prix pour ça?
Bien, c'est-à-dire que l'argent est redonné, c'est ce que Max Truman nous expliquait hier.
Ouais, ouais.
La région de Montréal, ce qui est perçu dans la région de Montréal reste pour Montréal. Donc, ce qui est perçu dans la région de Québec par les hôteliers sur la taxe d'hébergement touristique,
je comprends.
Une des parties servirait pour des infrastructures, mettons. Mais encore là, l'autre idée, c'était peut-être une loterie pour les infrastructures aussi sportives. Tu sais, à l'époque, quand les Nordiques sont partis, ça avait été évoqué ça, par Parizeau,
ouais.
Jean-Paul Lallier, puis même Marcel Houbet à l'époque disait « Bien, laissez-moi la possibilité d'avoir une loterie. Les gens vont miser sur la loterie, puis on va prendre une partie de cet argent-là puis on va la mettre pour financer un nouveau Colisée. » Ça a été rejeté. Tout est à toi.
Ah, pourtant, c'est très bon, ça, cette idée-là.
Ben oui, c'est très bon. Puis, tu sais, tout à l'État, là, à un moment donné, il y a une limite.
Oui, il y a une limite.
On l'a vu pendant la COVID. Là.
Oh.
Fallait sauver le système à tout prix. Mais c'est, on a fait des conneries aussi. Là.
On a fait des pas pires conneries.
Ben. Voilà, il est là.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre et bonjour Frank. Écoute, un plaisir de faire notre première chronique comme ça, les trois ensemble.
Ben oui, écoute, Rodolphe, beaucoup de sondages ce matin. Là. Je veux dire, ça bouge, beaucoup d'indécis qu'on voit. Comment tu vois de ton côté? Qu'est-ce que tu vois? Y a-tu des gagnants? Y a-tu des perdants?
Ben écoute, je pense que le gagnant actuellement, c'est Éric Duhaime dans ce dernier sondage léger parce que non seulement il se maintient, tandis qu'on voit que les autres, c'est un peu plus difficile. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon est toujours à 30 %, mais le problème, c'est que 30 %, ce n'est pas assez actuellement pour faire un gouvernement majoritaire. Il est juste à la marge. Bien évidemment, ça va dépendre de lutte à deux, lutte à trois, etc., etc. Donc, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut qu'il aille en chercher encore un tout petit peu. Donc, c'est un peu son défi. Le deuxième, que ce n'est pas une bonne nouvelle, en tout cas ce matin, c'est Charles Milliard, Parti libéral, pour deux éléments. Le premier, c'est qu'il baisse dans les sondages, il est passé de 27 à 24 %. Et le deuxième qui fait le plus mal, c'est le vote francophone qui, selon Léger, il serait à 13 % par rapport à, par exemple, à une CAQ qui est autour de 25 %. Donc, on voit que pour Charles Milliard, il y a deux grosses lumières rouges, ça veut dire en termes de du vote de façon générale et, bien évidemment, de réussir à aller chercher le vote francophone. Pour Mme Fréchette, elle perd un point, puis on se demande, est-ce qu'elle a atteint un tout petit peu son plafond? Moi, je pense que oui. Ça veut dire, au bout d'un moment, là, je ne sais pas ce qu'ils pensent des stratèges à la CAQ, mais ils ne vont pas faire de miracle non plus. Là. Elle a pris un parti qu'ils avaient zéro siège, que plus personne ne voulait entendre parler de ce parti-là, puis de François Legault. Là, juste au moins d'être à 20 % être compétitif dans certaines circonscriptions, puis l'opportunité peut-être de sauver des meubles avec un vote francophone à 25 %. Bon, ben, je trouve que quand même, c'est déjà pas mal. Est-ce que, d'un côté, ils se disaient, bon, ben, on a été hyperactifs, on a les leviers du pouvoir et tout ce que vous voulez. Oui, mais il y a quand même une limite à l'usure du pouvoir aussi, puis à changer de nom, puis à changer de logo, puis à dire ouais. Que c'est du renouveau. Hey, le renouveau, quand tu vois la liste des ministres qui se représentent, puis actuellement la liste des candidats, il n'y a pas de grosses vedettes et il n'y a pas en tout cas un gros renouveau.
Mais quand on regarde, Rodolphe, les sondages et les projections sur Québec 125, on dirait oui. Que pour la CAQ, c'est tout ou rien, au sens où soit ils gagnent un petit peu de points dans le vote franco, puis là, ils peuvent atteindre un 10, un 15, un 20 députés, puis sauver les meubles, comme tu dis, soit on reste comme c'est là actuellement et il y a un scénario probable où ils ont zéro élu. Là. Même oui. Mme Fréchette, je regardais ça, elle a à peu près 1% d'avance dans Trois-Rivières. C'est quand même la première ministre du Québec. Là.
Non, tu as tout à fait raison. Son élection à elle en tant que députée n'est pas gagnée. Oui, elle doit arriver à une zone payante. Puis c'est la même chose pour le Parti libéral. Le Parti libéral, certains sondages disaient qu'ils étaient à 19% dans le vote francophone. S'ils arrivent à des fois passer à 20%, 21%, bien là aussi, ils rentrent dans une zone payante. Puis Québec solidaire, le problème de Québec solidaire, oui, ils gagnent 2 points. Mais le problème, c'est que Québec solidaire, ils vont rester seulement à Montréal. On se souvient, par exemple, moi, j'habite en Estrie. Ils avaient Christine Labrie à Sherbrooke. Tu peux mettre une croix, par exemple, pour Québec solidaire, en tout cas à l'extérieur de Montréal. Donc, tu vois que pour tous les chefs, il y a c'est un peu une douche froide ce matin. Éric Duhaime, oui, gagne un tout petit peu, mais surtout, je pense que son vote à Québec est un peu plus solide. Mais le problème, c'est que tout le monde est en train de magasiner. Là. Quand il y a 49% des gens qui disent qu'ils sont prêts à changer d'opinion, écoute, Québec solidaire, leur vote est flexible à 63%. Donc, pour te dire qu'il n'y a rien qui est coulé dans le béton, loin de là. Normalement, un sondage l'été, tu te dis, OK, c'est pas si important que ça. Puis des fois, le gouvernement performe bien l'été parce que tout le monde est content, tout le monde est en vacances, puis il fait beau. Mais là, un sondage, avant une campagne électorale, disons que ça va faire brasser ou réfléchir pas mal de stratèges.
Donc, toi, tu es un stratège, Rodolphe. Comment tu vois la game 27 août, les élections? Tu dis, on se garde une petite annonce de chèque dans la dernière semaine pour aller chercher les indécis?
Non, je pense qu'actuellement, le défi, c'est vraiment entre le Parti libéral, la CAQ et, dans une certaine mesure, Éric Duhaime, c'est d'aller consolider ce vote fédéraliste, parce que c'est un tout petit peu ça. Tu vois les sondages, tu vois que les gens, par exemple, l'appui à la souveraineté est plus faible. Donc, tu vois que tout d'abord, la CAQ doit lutter contre cette image de changement. Donc, ça, c'est difficile pour la CAQ. Et il faut coaliser un tout petit peu ce vote anti-souverainiste. Vous la connaissez, la game. Normalement, c'était Parti libéral, dernière semaine de la campagne, un vote pour le PQ, c'est un vote pour un référendum, etc. Puis les gens vont voter libéral parce qu'ils ne veulent pas de référendum. Donc, c'est un peu le défi à la fois pour la CAQ, puis à la fois aussi pour Éric Duhaime, c'est de consolider ce vote référendaire d'une certaine façon pour essayer peut-être possiblement de mettre M. Paul Saint-Pierre Plamondon dans un gouvernement minoritaire.
Mais comment t'expliques, Rodolphe, que on regarde, là, tu les as donné les chiffres sur la souveraineté, oui. Là, on a de la misère à dépasser le 30%, donc oui. C'est-à-dire que 70% des Québécois, grosso modo, 65-70%, ils n'en veulent pas de référendum. Mais on dirait qu'il n'y a pas un parti qui a la capacité de revendiquer vraiment l'étiquette fédéraliste. C'est comme si c'était à avoir la lèpre, ça, être fédéraliste au Québec. Mais en réalité, c'est la position de la vaste majorité. T'sais, quand on pose la question aux gens de la CAQ qui se cachent entre la peinture et le mur, même chose un peu pour le PCQ. Puis même chez les libéraux, ben là, il y a eu toute l'histoire avec Farnell qui a dit dans un podcast qu'il serait peut-être je sais pas, ça dépendrait du contexte, c'est M. Bourassa. Enfin, on dirait qu'il n'y en a pas, en fait, de vrais partis qui s'assument fédéraliste, là.
Ben écoute, tu mets le doigt sur le bobo, parce que bon, Mme Fréchette, quand on lui pose la question, elle nous répond « Je suis dans le camp des Québécois » et elle a un historique, ou en tout cas au Parti québécois, donc tu te dis « Hey, elle, s'il y avait un référendum, elle serait un tout petit peu plus du côté souverainiste. » Tu mets le doigt là-dessus. On a vu un Mathieu Lacombe dire comme ça qu'il voterait oui à un référendum. On a vu aussi des vieux rouges comme Jean Boulet, par exemple, maintenant quitter la CAQ. Donc, c'est vrai, tu as raison que c'est difficile pour la CAQ de se dire « Nous, on est l'option fédéraliste ». Puis, d'un autre côté, ben Charles Milliard, il est pris entre l'arbre et l'écorce. Parce que d'un côté, il nous dit « régionaliste, nationaliste, etc. ». Mais d'un autre côté, tu te dis « OK, il n'est pas assez fort, il ne veut pas parler de français, il ne veut pas parler de la clause dérogatoire, il est faible sur certains éléments ». Donc oui, tu as tout à fait raison, le défi, c'est d'avoir ou de coaliser ce vote fédéraliste, parce que c'est là que tu peux aller chercher des votes, tu as tout à fait raison. Tu as un bassin d'électeurs, 70% des électeurs qui ne veulent pas la souveraineté, il faut que tu ailles chercher ce vote-là, puis pour l'instant, c'est en train de se diviser 24-20-13% en tout cas entre les trois partis qui se disent en tout cas pas souverainiste.
Et le vote francophone aussi, Rodolphe, parce que Milliard, c'est un peu son point faible, hein? Il baisse beaucoup là, il avait remonté, mm-hmm. Et là il baisse. Donc là, ça veut dire qu'à partir de l'île de Montréal, il n'y a pas de député encore, là. On n'en voit pas encore.
Non, l'Estrie un peu, puis ça va être ça. Là.
Non, c'est ça. Puis même si on regarde les enjeux par enjeu, on voit que la priorité, c'est quoi? C'est la santé, c'est le coût de la vie, c'est le logement, c'est l'économie. Écoute, même moi, je suis surpris. Sécurité et justice, c'est 6 %. C'est normalement, il y a toujours ce... Et on avait fait le sondage il y a un an ou deux.
Ouais,
oui,
ça.
L'environnement n'est même pas dedans. L'environnement n'est pas dedans. La justice est très faible à 6 %. Donc, tu vois que vraiment, ça va jouer sur la santé, l'éducation ou en tout cas la perception de quel gouvernement va réussir enfin à donner les services pour les impôts qu'on paye. Et puis moi, je pense qu'Éric Duhaime, dans cette campagne, puis il l'a déjà commencé la semaine dernière, il arrive comme ça à dicter un tout petit peu le message ou en tout cas le débat. On l'a vu, lui est sorti concernant les baisses d'impôts puis couper la fonction publique et couper dans le système. Ben, en tout cas, on va voir les autres partis parce que je pense que les Québécois, ils ont surtout envie de voir du changement puis ils ont envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est pas dit, puis ça, je pense que c'est quelque chose, Pierre, que tu vas être 100 % d'accord. C'est pas en garantissant encore plus d'argent que des fois, on va avoir des services. Puis ça, c'est un tout petit peu comment les gens se sentent actuellement.
Ouais, ben là, Duhaime parle de coupe historique à l'impôt puis des taxes. Puis là, tout le monde sort pour dire « Hey, il faut pas couper des taxes puis des impôts aux citoyens. Il faudrait pas faire ça. » Bon, Canada, États-Unis... libre-échange, là, les aiguilles bougent, le ton change à Québec. On parle peut-être de remettre les bouteilles d'alcool américains, les bouteilles tout ce qui est alcool américain sur les tablettes de la SAQ. On sent que Mme Fréchette a peut-être eu le mémo. Je pense qu'on rentre peut-être dans un crunch de négociation. Il y a une fenêtre possible pour le Canada, crois-tu à ça?
Écoute, je ne sais même pas si je peux appeler ça des négociations parce que, tu sais, normalement, des négociations, puis même, j'ai entendu M. Carney dire oui, on essaye d'avoir un accord gagnant-gagnant. T'sais, c'est un peu difficile de penser qu'il y aura des compromis ou qu'il y aura un consensus. Je pense que le mot en C qu'on va plus utiliser, c'est bien évidemment concession, parce que c'est un peu ça, un tout petit peu la dynamique. Est-ce qu'on va être limité sur nos exportations d'acier, par exemple, d'aluminium, d'automobile? Parce que c'est un peu ça, on dirait, qui sont en train d'être négociés en disant, bon, ben, on vous mettra pas de tarifs à une certaine quantité, puis après, on vous mettra les tarifs. Est-ce qu'après, on va crier victoire au Canada ou au Québec? Je me pose la question. Puis de deux, qu'est-ce qui va se passer avec la gestion de l'offre? Est-ce qu'on parle de l'administration des quotas seulement et non pas des quantités? Mm. On va voir. Puis le problème, j'ai quand même l'impression que c'est, OK, très bien, Dominique Leblanc négocie avec son homologue américain, le représentant au commerce. Mais ensuite, quand ça arrive sur le bureau de M. Trump, est-ce qu'il ne va pas encore changer d'avis? Tu sais, moi, ma propre expérience politique, c'était souvent on négociait négociateur à négociateur, ensuite on négociait politique à politique,
ouais.
Puis à la fin, c'était les premiers ministres et les autres qui tranchaient. Donc j'ai quand même l'impression qu'il faut faire très attention, parce que des fois, on peut dire qu'on peut croire qu'on a un accord, ou en tout cas qu'on a, comme on appelle, une zone d'atterrissage, puis après, tout d'un coup, ben on en demande plus. Puis si tu as déjà dit que tu étais prêt à aller, puis donner ci, donner ça, il reste quoi? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été déjà joués. Il reste quoi comme carte?
Il reste la gestion de l'offre, hein? C'est ça, pas mal.
Non, ou la F-35, ou des choses comme ça, ouais. En termes de OK, tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a plus énormément de cartes, ou sinon, il faut aller dans OK, si c'est ça, on vous coupe le pétrole, l'électricité, puis laisse tomber, les provinces ne sont pas là, bien évidemment.
Et Carney, lui, est en vacances en Italie jusqu'au 17.
Oui, ça va très bien.
C'est quoi le message qu'on envoie? C'est que les tables négocient. Au pire, allez, on le sortira pour une annonce, s'il y a une annonce, mais...
Je sais pas. Écoute, je sais pas. Peut-être que vraiment, il y avait quelque chose qu'ils pouvaient pas annuler ou quoi que ce soit là pour ce voyage en Italie. Moi, écoute, je suis vraiment pas contre que les politiciens prennent des vacances. Loin de là, je trouve que la meilleure décision que Paul Saint-Pierre Plamondon a pris, c'est de prendre tout le mois de juillet off. Puis je pense que c'était ce qu'il lui fallait. Mais c'est vrai que tu te dis, attends, c'est le crunch des négociations et lui est en Italie. Bon, on est quand même au 21e siècle. Je pense qu'il y a son téléphone à côté de lui. Mais quand même, c'est vrai que ça n'envoie pas non plus une image d'être comme ça à l'extérieur du pays quand il y a ces fameuses négociations.
Donc, beaucoup d'actions hein, d'ici le déclenchement des élections de part et d'autre, fédérale, provinciale. Rodolphe, tu es salué. Merci beaucoup.
Merci, Frank. Merci, Pierre.
Salut.
Merci. Bye-bye.
Voilà. Rodolphe Osny, notre chroniqueur politique. Qu'on a chaque semaine le mardi. On est chanceux d'avoir Rodolphe parce qu'il y a des...
Très, très bon.
Des connaissances. Lui, il était staff politique longtemps, donc avec Harper. Donc,
ouais.
Manœuvrer dans les coulisses, ça, c'est important hein, de connaître. Lui, c'est quand il parle de négo comme ça, il sait très bien c'est quoi.
Oui, puis il a été au commerce international. Il a été témoin de ces négos-là, du temps de Harper, où on négociait des deals de libre-échange. Je pense notamment avec l'Inde à cette époque-là. Donc,
t'allais en Chine aussi beaucoup Chine, avec ouais. Le gouvernement. Donc, toutes la façon dont on traite le staff politique, parce qu'il y a tout l'envers du décor hein, quand on va dans dans du protocolaire, là. Et Rodolphe est au courant de tout ça. Et la machine, surtout, la grosse machine fédérale. Voilà. Bon, après la pause, on ouvre les lignes. Frank, on va où?
Oui, bien, c'est ça, les gens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un gros... Bien, il y a un dossier dans la presse, dans le Journal de Montréal aussi. On nous parle des... ce qu'on appelle les fem cells. Donc, les gens connaissent les incels. Donc les
on
gens,
a parlé beaucoup de
les,
ça.
On a parlé... C'est un sujet qui revient tout le temps. Donc, les hommes qui disent être involontairement célibataires. Autrement dit, ils ne sont pas capables de rencontrer quelqu'un. Mais là, on nous dit que ça touche les femmes maintenant aussi, ce qu'on savait un peu. Là, je veux dire, si ça touche les hommes, ça touche les femmes
ben
aussi.
Ben oui, il y a des femmes qui ne sont pas capables de se trouver un partenaire.
Puis tu sais, on lit toutes sortes d'affaires dans les journaux, mais ce qu'on aimerait entendre, c'est est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile qu'avant rencontrer quelqu'un? On parle beaucoup de télétravail, on est chez soi, on sort moins qu'avant, il y a moins de 5 à 7, tu peux moins rencontrer de monde dans les couloirs du bureau, il y a moins d'occasions de rencontrer. Est-ce que vous trouvez qu'il y a moins d'occasions de rencontrer?
Quand il y en a, des fois, c'est peut-être aussi, parce qu'on a déjà été sur le marché, là.
Ben oui.
Moi, j'ai une blonde, ça fait 4 ans, fait que c'est... mais à un moment donné, tu te rends compte, des fois, il y a des objectifs irréconciliables. Tu parles avec une fille ou une femme, puis tu te rends compte que finalement, ce qu'elle a dans sa tête, son prince charmant, ben ce ne sera pas toi, mais elle n'aura jamais de prince charmant là, parce que ses standards sont trop élevés. Même chose peut-être du côté des gars, des hommes.
Exact.
Mais à bord trop haute, à un moment donné, baisse tes standards. Si tu n'as pas fréquenté non plus, à un moment donné, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faut que tu te rendes disponible.
faut que tu sois capable de faire un peu de concession. Donc, on aimerait ça vous entendre là-dessus au retour de la pause.
Voilà, 418-670-9098. On revient après la pause.
Couture.
Restez là.
Dans le mid.
On revient dans un instant.
Radio X.